Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Doug regarda Diamantis, puis Lala. Il partit vers elle en balançant les bras, juste pour que Diamantis apprécie la musculature de son dos. Ça ne le fit pas sourire. Il commençait à se départir de sa bonne humeur. Doug disparut dans l'arrière-salle. Diamantis alluma une cigarette et fit quelques pas. Il n'était plus inquiet, mais impatient. Il étouffait. Il avait envie de se retrouver à l'air et de profiter des derniers instants de la journée. De ce moment particulier, où le soleil couchant embrase les immeubles ocres du quai de Rive-Neuve, puis le port tout entier. Doug réapparut. D'une main, il tirait le sac de Nedim, derrière lui, dans l'autre, il tenait son passeport. Diamantis ne pigea pas. « Je vous propose un marché, » dit Doug. Il dit cela sans réelle conviction, quelqu'un d'autre que lui parlait. « Je vous écoute. Je vous rends le passeport du Turc et son sac contre votre passeport. Et moi, j'aligne 900 balles quand je veux le récupérer. Tout juste. Ben, je me fais baiser, quoi. C'est votre ami, le Turc, non ? Il vous baisera pas, vous. » Doug sourit pour la première fois. À qui il devait cette transaction, Diamantis l'ignorait, mais il devait reconnaître que c'était finement joué. « D'accord, » fit-il après quelques fausses secondes de réflexion. Parce qu'il pouvait toujours faire une déclaration de perte ou de vol. Ça prendrait du temps pour en refaire un, mais le temps, il en avait devant lui. Nedim, non. En l'écoutant hier soir raconter ses mésaventures, il s'était dit qu'il était grand temps qu'il rentre chez lui, qu'il se marie et qu'il s'installe. Dans l'état où il était, Nedim pouvait faire n'importe quelle connerie. « Il repart quand, votre bateau ?»«
Je ne sais pas. »«
Jamais, peut-être. »«
Jamais. »
Diamantis haussa les épaules, puis il sortit son passeport et le lui tendit. Doug l'ouvrit à la page de la photo d'identité. « Diamantis, » dit-il.
« Comme c'est écrit ?»
Diamantis glissa le passeport de Nedim dans la poche de sa chemise, mit le sac sur son dos et sortit, sans dire au revoir. Nedim en eut les larmes aux yeux.
« Mais t'es un champion, comment t'as fait ?»«
Je te raconterai. J'ai soif. » Diamantis fit signe au garçon. Nedim fouilla dans son sac et en sortit un vieux portefeuille très large, au cuir usé, cousu main. Un sourire rusé apparut sur ses lèvres.
« Je t'offre à boire, » il dit triomphant.
Et il posa 100 $ sur la table. Il éclata de rire. «
Tu vas pas me croire, Diamantis, mais j'avais oublié que j'avais ce fric-là. Ça m'est revenu dans la nuit. J'arrêtais pas de me tourner et de me retourner, et ça m'est revenu. Après l'angoisse, putain !» Nedim, que je me disais, tu l'as déjà claqué ce fric ou pas ? Je savais plus, Diamantis, toute la nuit j'y ai pensé, c'est dingue, non ?
Ben, c'est toi qui es dingue. Il rit de plus belle, heureux comme un môme. Finalement, on les a bien niqués, ces enfoirés.
Pas exactement.
Diamantis lui expliqua la transaction.
Merde !
Il resta silencieux un instant, puis estima que ce n'était plus son affaire. Ce fric qu'il devait, lui, il avait tout récupéré avec 100 $ en prime. Tu veux voir la photo de mes parents ?
Il tendit une vieille photo jaunie à Diamantis. Les dollars, ils étaient collés derrière. Ils sont beaux, non ?
Dit-il en reprenant la photo.
Il la regarda tendrement et l'embrassa deux fois. Il la remit dans le portefeuille et le portefeuille dans le sac. Diamantis poussa les dollars vers Nedim.
Ce fric, tu le gardes. T'y touches pas, Nedim, ok ? Tu te cherches un autre camionneur et tu rentres dès que tu peux.
Oui, mais les clopes, tout ça. Et puis, comment je vais boire quelques coups ? Merde !
On se débrouillera. Je vais en reparler avec Abdoul.
Ouais, il fit avec l'intonation d'un gamin puni.
Nedim, je te jure que si tu claques ce fric, moi je te casse la gueule.
Il baissa les yeux.
Au fait, t'as vu les filles ?
Non, mentit Diamantis. Il n'y avait que Doug.
Enculé de nègre.
Diamantis se leva, paya les consommations et tendit à Nedim son paquet de cigarettes à peine entamé.
Tu te tires ?
J'ai encore des choses à faire, on se retrouvera plus tard.
Il se pencha vers lui. Oublie pas ce que je t'ai dit, Nedim. Vraiment, je te casserai la gueule.
Diamantis arriva sur le port juste au moment où le soleil se couchait derrière le clocher des Acoules. Il resta là, immobile, dans les derniers rayons rouges de la journée.
Marseille était ainsi, se dit-il. Elle ne promettait rien, ne laissait rien entrevoir.
Elle se contentait de donner à profusion. Il suffisait de prendre, de savoir prendre.
Bien qu'il fût encore tôt, le mât était plein.
Un serveur s'approcha de Diamantis.
Vous avez réservé ?
Non, répondit-il. En fait, je cherche quelqu'un.
Faites !
Diamantis traversa la salle. Les odeurs qui s'élevaient des différents plats étaient appétissantes. Son estomac se noua. Après avoir quitté Nedim et pour faire passer le temps, il s'était assis à la terrasse du bar de la marine sur le port, le lieu de rendez-vous des skippers. Il aimait bien l'ambiance. Il avait bu 4 ou 5 bières, il ne savait plus, tout en mangeant des cacahuètes grillées. Maintenant, il avait faim.
Même avec le temps, il était sûr de la reconnaître, Amina. Enfin, il le pensait.
Elle devait avoir 39 ou 40 ans aujourd'hui, 41 peut-être. Il doutait tout d'un coup.
Mais quelle importance cela pouvait-il avoir aujourd'hui ?
Aucune. Une femme que l'on a aimée, vraiment, on devrait être capable de la reconnaître n'importe où, même 20 ans après.
La beauté d'Amina, il en était persuadé, était au-delà du temps.
Des visages se levèrent sur lui au passage, puis replongèrent dans leur assiette. Personne ne le connaissait et il ne connaissait personne.
Curieuse clientèle, pensa-t-il. Elle sentait le fric.
Homme d'affaires, avocat, médecin, journaliste aussi peut-être. Les femmes qui les accompagnaient ne s'habillaient pas au rayon prêt-à-porter des grands magasins. Elles avaient quand même l'air de cagoles, tout en vitrine et trop maquillées.
Mais leurs hommes avaient l'air de les aimer ainsi.
Il supposa qu'elles devaient porter des dessous rouges en dentelle et ça le fit sourire.
« Je peux vous aider, peut-être ?»
lui demanda l'homme qui était derrière la caisse. La 60aine bien entretenue, pantalon noir, chemise blanche en soie, largement ouverte sur une épaisse chaîne en or. Au poignet droit, une grosse gourmette avec son prénom, Giovanni.
Le patron, sans doute, ou le gérant.
« Oui, peut-être. Je cherche une amie que je n'ai pas vue depuis quelque temps. »
On m'a dit qu'elle était cliente chez vous, Amina. Amina Mazzetto.
Enfin, Mazzetto, c'était son nom de jeune fille.
L'homme le fixa avec attention, puis son regard se porta loin devant lui. Diamantis se retourna, espérant découvrir Amina, Amina qu'il n'aurait pas reconnue, mais non.
« Un instant, » lui dit Giovanni.
Il se dirigea vers une table où dînaient trois personnes, un couple et un homme seul. À côté de lui, la place était vide, mais on avait laissé le couvert. L'homme était de dos. Malgré la chaleur, il portait une veste légère en coton ou en lin bleu marine. Ses cheveux bien coupés grisonnaient sur ses tempes et sa nuque. Il ne devait pas être très grand, mais il semblait trapu. Diamantis ne pouvait lui donner un âge précis.
Pardon, dit une serveuse à Diamantis. Dans la main droite et sur son avant-bras gauche en équilibre, elle portait trois assiettes de figatelli grillées.
Giovanni se pencha à l'oreille de l'homme au veston. Le couple leva les yeux vers Diamantis, mais l'homme ne se tourna pas dans sa direction.
Giovanni revint vers Diamantis. « C'est qui ce monsieur ?»«
C'est pas un de vos amis, certainement, » répondit froidement Giovanni. « Nous ignorons si Amina passera ce soir, mais vous pouvez lui laisser un message. Je lui transmettrai dès que je la verrai. »
Giovanni lui expliquait cela sans la moindre gentillesse. Diamantis se souvint de ce que lui avait dit Masetto. Amina était une pute ou quelque chose dans le genre. Ce type était peut-être son mac ou son mari, ou les deux, pourquoi pas. Mais Masetto avait pu lui raconter n'importe quoi par méchanceté. Ici comme partout en Méditerranée, on avait peu de considération pour les jeunes femmes qui épousaient des vieux beaux, pleins aux as. Il était évident qu'une fois mariée, elle se faisait tirer par le premier représentant de commerce venu. L'argent, ça excite, mais ça ne fait pas jouir.
Diamantis n'arrivait pas à se faire à l'idée d'Amina pute, même pute de luxe, ni même femme entretenue. Ce type devait être son mari. Il s'en tint à ça. C'est ce qu'il voulait croire. Cela lui faisait moins de mal que d'imaginer autre chose.
Giovanni lui tendit un bloc de papier et un stylo. Il griffonna quelques mots. « Je suis à Marseille, j'aimerais te revoir. Te demander pardon, rendez-vous. » Il hésita, puis reprit « Après-demain, vers 17h, au bar Henri, rue Saint-Saëns, Diamantis. » Il ajouta « Mon bateau, c'est l'Aldébaran. Au cas où tu ne pourras venir, tu peux me faire demander au contrôle de la porte 3A. » Il plia le mot, écrivit Amina dessus et le tendit à Giovanni. Ils se regardèrent. « Merci, » dit Diamantis.
Quand les gars de Paris montaient sur la côte, brillants et bronzés, de la tête aux roues, chantaient les Marie, Françoise et les autres, quittaient nos genoux. Elle courait se mirer, ce rouge à lèvres, se coiffait dans les chromes des voitures de sport qui décapotaient à leur arrivée devant l'hôtel du port. Nous les cons du coin, le cœur en cale sèche, on courait draguer les grands chalutiers, louer nos bravis aux patrons de pêche. Les trois mois d'été, les trois mois d'été, où les gars de Paris dans les casinos faisaient un sans faute, remontant de leur filet, chantaient les maris, Françoise et les autres. Nous, pendant ce temps-là, poisse de poisson, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Attendre et attendre, et souffler le soleil au bout d'un hameçon, jusqu'au froid de septembre. Au premier brouillard, on touchait la côte, Les rues étaient vides, le ciel était mort. Chantal et Marie, Françoise et les autres guettaient sur le port.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean-Claude Izot, Les marins perdus. Diamantis se demanda si le message parviendrait vraiment à Amina. Ce dont il était sûr, c'est que Giovanni le remettrait à l'homme au veston, et que celui-ci ne se gênerait pas pour en prendre connaissance. Il regretta soudain d'avoir écrit « Te demander pardon ». Mais c'était trop tard maintenant. Il était sans doute trop tard aussi pour demander pardon à Amina. Il n'empêche qu'il voulait essayer de la retrouver, tout essayer pour lui expliquer. Lui expliquer quoi ? Combien de fois il s'était repassé cette scène ? Des centaines de fois, des milliers même. Pendant des années, il lui avait écrit puis téléphoné de Barcelone pour lui dire quel jour le Stainless Glory appareillerait à Marseille. Contrairement à ce qu'il croyait, l'escale n'était que d'une nuit. Le cargo repartait à vide vers Gênes. Chaque heure comptait. Elle ne voulait en perdre aucune, elle avait dit. Elle proposa de venir l'attendre sur le port. Il préféra lui donner rendez-vous au bar du Cap, quai de la Joliette, entre 8 et 9 heures, parce qu'il ignorait encore l'heure à laquelle il serait libre. Une voiture le conduisit jusqu'au poste 53, puis il continua à pied dans l'enceinte du port faiblement éclairée. Il était 8h10, et il n'y avait pas plus heureux que lui sur cette terre ce soir-là. Trois hommes l'attendaient au coin d'un bâtiment, trois costauds. Deux d'entre eux l'empoignèrent sous le bras et le tirèrent dans un hangar. À peine à l'intérieur, le troisième le cogna, deux fois dans le ventre. La douleur le plia en deux. Le poing gauche de l'homme lui fit relever la tête, un autre encore, et deux autres coups dans le ventre. Il haletait et il avait peur. Sa vessie se relâcha, il sentit la pisse brûlante mouiller son slip et la toile de son pantalon, puis dégouliner le long de ses jambes. Des larmes coulèrent, la peur et la colère, l'humiliation. Le type s'arrêta de cogner. « Il chiale, ce petit con !» il rigola. Il mit un flingue sous le nez de Diamantis, un gros pétard noir. « Tu vois ça, minable que tu es ?»« Tu vois, » répéta-t-il en empoignant les cheveux de Diamantis par la main gauche pour lui faire soulever la tête. « Si t'as le malheur d'approcher encore une fois Amina, je fais sauter ta belle gueule avec. » Il tira sur les cheveux pour que Diamantis relève mieux la tête. « Elle et moi, on est comme qui dirait fiancés. Tu comprends ça, connard ?» Au téléphone, elle lui avait dit « Je t'aime. Et puis, tu me manques. Et puis encore, j'ai hâte. » Ces derniers mots dans un souffle presque rauque, chaud, doux comme ses mains, ses lèvres. Il bandait quand il avait raccroché « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Il n'entendait plus que ça dans sa tête. « T'as bien compris ? Tu rentres pas dans mes plans. » Amina. Qui étaient ces hommes, ce type ? Est-ce qu'elle était au bar du Cap à l'attendre ? Ce type l'avait-il frappé, elle aussi ? Dès qu'il le lâcherait, il se précipiterait vers le bar. Il s'était dit ça malgré la douleur qui l'envahissait. Le type arma le flingue et lui enfonça le canon dans la bouche. L'acier était froid, il frissonna. T'as vu, petit connard, on a su te trouver, on saura encore ! Il retira le flingue et remit sa sécurité. Les gros bras lâchèrent Diamantis. Il se retrouva, le cul par terre. « Moi, je crois qu'il s'est chié dessus, » dit l'un, en rigolant à l'adresse de l'homme au flingue. « Ça m'étonnerait pas, » il répondit. « Ça pue, comme les chiottes. »« Tu pourras lui raconter, » entendit-il dire un d'eux, alors qu'il s'éloignait. Ça les avait fait rire. Diamantis entendit une voiture démarrer. Il ne bougea pas, il resta là, une partie de la nuit, le cul dans la merde, baignant dans sa pisse, à sangloter. Oui, Il faudrait lui expliquer tout ça. Cette peur de mourir, malgré l'amour, son amour pour elle. Qu'à 20 ans, l'amour n'est pas plus fort que la mort. L'envie de vivre, c'était égoïste. La vie même, on n'avait que ça dans la vie. La vie, et le monde était vaste et les plaisirs aussi. Combien de fois pouvait-on aimer vraiment dans une vie? Combien de femmes sur terre ressemblaient à Amina, étaient aussi belles? Il devrait lui dire aussi qu'il n'avait jamais douté d'elle, qu'il s'était inquiété. Oui, ça oui, il s'était inquiété pour elle, même après, quand le Stainless Glory avait repris le large. À bord, les autres marins plus âgés s'étaient moqués de lui, non pas de ce qui lui était arrivé, non ça, il ne l'avait raconté à personne. Mais parce qu'il ne les saoulait plus avec Amina par-ci, Amina par-là, comme il l'avait fait auparavant, Marseille à peine quitté. 15 jours d'absence et il était cocu, le pauvre. Il disait ça entre eux, il riait de ça, pas de lui, d'elle. Les histoires allèrent bon train sur ces salopes dans tous les ports, avec des doutes, des inquiétudes sur chacune de leurs femmes. Parce que, quand même, une fois en mer, on n'était sûr de rien. Au début, Diamantis gueula, protesta, prit la défense d'Amina, inventa des tas d'histoires. On le charria plus encore. Il finit par écraser et fit semblant de se ranger à leurs avis, finalement. La vie à bord redevint normale. Il s'y donna à fond, sans cesser de penser à Amina, le jour, la nuit, tout en essayant de chasser les images de la bastonnade qui, de plus en plus, se mirent à estomper le visage d'Amina. Une nuit, il s'aperçut que penser à elle ne le faisait plus bander. En lui, il n'y avait plus que l'humiliation. 12 jours après, quand le Stainless Glory revint à Marseille, il se risqua jusqu'à chez Amina, en plein jour, mais pas très rassuré quand même. Son nom avait disparu de la porte d'entrée. Il ne chercha pas à se renseigner, il traîna ici et là, dans le bar où ils s'étaient rencontrés, dans les boîtes où ils étaient allés aussi, mais jamais seul, toujours accompagné d'un ou deux copains de bord, il ne la revit jamais. Puis son père était mort, et il y avait eu Mélina, l'amour de Mélina, le rêve de la vie à Agios, Nikolaos. Mélina l'aidait à oublier Amina, à oublier l'humiliation. Il lui avait tout raconté une nuit. Mélina l'avait réveillé parce qu'il criait dans son cauchemar. « Qui est Amina ?» lui avait-elle demandé. Ils en parlèrent souvent. Parfois cela finissait en dispute parce qu'il ne voulait rien céder sur ses souvenirs d'Amina. Mais, lui disait Mélina, tant qu'il ne céderait pas, il resterait obsédé par cette peur qu'il avait eue et qui était pire même que l'humiliation. Lentement, Mélina lui désapprit la peur et lui réapprit l'amour. Elle était une femme forte, terrienne, réaliste, volontaire. Et elle était une amante merveilleuse aussi, elle l'aimait. « On ne pouvait aimer qu'une seule fois dans la vie, disait-elle, tout le reste n'était qu'anecdote, et Diamantis était l'homme qu'elle aimait, et il serait le seul, quoi qu'il advienne. » Il en était advenu autrement, d'elle et de lui, de leur vie ensemble. Mélina n'avait pas compté avec la mère. Non, contre la mère, elle n'avait rien pu. Elle le comprit quand il lui écrivit, imitant son père, « Nous avons passé les portes d'Hercule, la pointe où mourut Anté. Au-delà, c'était l'océan. » Diamantis en avait fini de caboter sur la Méditerranée. Il avait pris le large, le jour où il s'était enfin senti adulte. Il n'oublia jamais, dans toutes les années qui suivirent, qu'il devait ce qu'il était à cette femme. Mélina. Il lui devait aussi la plus belle des choses au monde, Mikis, leur fils, comme un pont entre les mers qui les unissait pour toujours, tous les deux. Diamantis marchait d'un bon pas. Après avoir quitté le mât, il s'était arrêté à la Samaritaine, au coin du vieux port, pour boire un dernier petit verre avant de rentrer sur l'Aldébaran. Il avait pris la rue de la République. Tout au bout, place de la Joliette, il y avait une station de taxi. De là, cela coûtait environ 50 francs pour gagner la porte 3A. C'était selon. Quelquefois, un chauffeur terminant sa journée l'amenait gratos. Tous les habitués de cette station connaissaient l'histoire de l'Aldébaran. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Il se demandait si le type qui l'avait tabassé il y a 20 ans était le même à qui Giovanni était allé parler, juste pour savoir. En dépassant sa peur, l'humiliation qui avait été la sienne, il avait gommé tout désir de vengeance. C'était une autre vie. Il était un autre homme. C'est à cause de cela, d'ailleurs, qu'il s'était mis à repenser à Amina. Il revoyait maintenant son visage intact, son sourire, son corps. Un souvenir sans désir beau. Voilà, et c'était tout. En finissant son demi au comptoir de la Samaritaine, il avait décidé de ne pas aller rejoindre Mariette. Quelque chose l'en empêchait. Peut-être n'était-il pas prêt encore pour coucher avec une vraie femme, une femme qui attendait quelque chose d'un homme, de lui, autre chose qu'une partie de Jean Baller. Mariette débordait d'amour, il ne pouvait recevoir sans rien donner. Aimer, c'était ça, un échange entre deux êtres. Il ignorait encore ce qu'il pouvait lui offrir, à elle comme à d'autres. Il n'avait que des blessures, des souvenirs, sa solitude et la mer qui l'occupaient sans partage. Mariette méritait bien mieux que lui, bien plus. Elle trouverait. Il s'arrêta au croisement du boulevard des Dames pour laisser passer une Safrane bleue métallisée. Sans remarquer que cette voiture l'avait déjà croisée une fois au coin de la rue précédente. La Safrane tourna rue de la République en direction de la Joliette. Elle s'arrêta quelques mètres plus loin, les warnings allumés. Au moment où Diamantis arrivait à sa hauteur, deux hommes descendirent et vinrent à lui. Diamantis réalisa trop tard. Mais quand il reçut le premier coup de matraque, il comprit que ça recommençait, comme il y a 20 ans. À cause d'Amina, il n'en douta pas. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean-Claude Izzo, Les Marins Perdus, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.